Bonvenu, bonvenon, Esperanto Magazino numéro 242, numéro 1242. Nous sommes le 31 mai, la 31 des maillots. Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres, de reportages, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale.
Esperanto Magazino estas unu horal sendo parte esperante, parte france. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin preskaŭ ĉiun lundon de la 12:00 ĝis la 12:01 vespere en canalsud.net. Vi ankaŭ povos reaŭskulti la podcasto en toulouse.oxeo.net.
Vous pouvez nous écouter presque tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en FM en région toulousaine et sur canalsud.net. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxeo.net. À la technique ce soir, nous avons Lucas.
Saluton.
Saluton Lucas. Dans le studio, nous avons Manu.
Saluton.
Jade. Saluton.
Saluton. Quel vi fartas?
Bah bonne, quel vi?
Bon fartas bonne, bonne.
Ce soir, nous avons préparé une émission spéciale langue consacrée au polonais. Donc on retrouvera nos rubriques habituelles comme les Kionovas, mais aussi
une interview.
Une interview de Zuzanna Pajak, donc qui travaille à l'association Maison Copernica à Toulouse, et des rubriques dans lesquelles nous présenterons la langue polonaise, tout simplement, son histoire et ses caractéristiques.
Et une autre interview de Sabi, notre professeur d'espéranto.
D'espéranto.
Qui parle aussi polonais, hongrois et plein d'autres langues en fait.
Finnois je crois aussi. Ouais, voilà. Et enfin, nous terminerons, comme d'habitude, avec notre agenda. Comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique. Et ce soir, ce sera de la musique espérantiste chantée par des Polonais ou directement de la musique polonaise.
Hodiaŭ ni havos du intervjuoj, unu de Zuzanna, kiu laboras en la Maison Copernica en Tuluzo, kaj intervjuo de Sabi, kiu parolas la pola, kaj ni ankaŭ havos muzikojn en la pola aŭ en Esperanto, sed farita da polaj homoj.
On commencera d'ailleurs par Heila Nizoy, la version en espéranto d'une ballade traditionnelle polonaise et ukrainienne reprise par Zuzanna Kornicka. Ni tuj auskultos Heila Nizoy, la esperanta versio de tradicia pola kaj ukraina kanto, kantita de Zuzanna Kornicka.
Nun verflogen Norden, dies Bank ist euch.
passe? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Qui en novas?
Le saviez-vous, depuis août 2020, donc l'association espérantiste ECHI, donc education@internet, hein, qu'on connaît bien, a lancé sa plateforme en ligne polski.info, qui est conçue pour les autodidactes en fait, qui débutent en polonais. Donc c'est une plateforme où il y a des cours qui vont du niveau A1 au niveau A2, et c'est surtout une plateforme qui permet l'accès à un dictionnaire avec des enregistrements audio, à une grammaire du polonais qui ressemble un peu, enfin qui est un peu présentée comme celle de lernu.net pour l'espéranto, et aussi des exercices interactifs, plein d'extraits de médias en polonais, et bien sûr un forum pour discuter avec d'autres apprenants et avec des polonais natifs. Donc si vous êtes intéressé par l'apprentissage du polonais, qui est quand même la deuxième langue slave la plus parlée au monde, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site, on mettra le lien dans notre podcast. Chuvitsis, ekde augusto 2012, la Esperanta Asocio ECHI, Educato ĉe Interreto, enkondukis la retplatformon polski.info por la meminstruitaj komencantoj en la pola. Do sur la platformo vi povas trovi A1 kaj A2 kursojn, kaj ankoraŭ vortaron, polan gramatikon, kiel en lernu.net. Interactivain exersoin, fragmentoin el polai gazeratoi, kai forumon por paroli kun aliai lernantoi. Do se vi interesigas pri lerni la duan pli parolatan slavan lingvon, ne hesitu aligi en la reteio, gi aligilo, estos en nia podcasto.
Mi aligis, mi ancora ne comencis.
Yes.
Bona comenzo.
Do kai vi, Jeanne, kio novas?
Yes. Alors, dans le numéro de juin de la revue Esperanto, donc édité par l'Association Universelle d'Esperanto, il y a un article qui revient sur le 5e symposium interlinguistique international qui a eu lieu en septembre dernier à l'Université Adam Mickiewicz. Donc, le thème commun des conférences était le rôle des langues dans la communication interculturelle, et les langues de travail étaient l'espéranto, l'anglais et le polonais. L'objectif était de réunir les chercheurs, espérantistes ou non, qui pourraient présenter leurs approches de la communication interculturelle, analyser les possibilités et les problèmes dans le domaine de la politique linguistique et de la culture, et tout simplement entamer un dialogue. À la suite de leurs interventions, deux livres synthétisant leurs recherches ont été publiés, et le plus récent a pour sujet l'espéranto et les défis que la langue doit relever dans une communauté internationale multiculturelle. Donc vous pourrez lire les contributions des chercheurs, qui sont en espéranto, en anglais et en polonais, en téléchargement gratuitement les ouvrages directement sur le site de la maison d'édition RIS, dont nous partagerons le lien sur la page de notre podcast.
Trop bien.
En la junia numero de la revue Esperanto, redactita de UEA, estas articolo pri la kvina interlingvistika simpozio, kiu okazis en septembro en la Universitato Adam Mickiewicz en Poznan. La temo estis rolo de lingvoj en interkultura komunikado, kaj Esperanto, la angla kaj la pola estis la oficialaj lingvoj. La celo estis kunvenigi esploristojn, esperantistoj aŭ ne, por prezenti siajn alirojn al interkultura komunikado, analizi la eblojn kaj problemojn en la tereno de lingvistiko, lingvopolitiko kaj kulturo, kaj komenci dialogon. Rezulte de iliaj intervenoj, du libroj estis publikigitaj. La plej freŝdata libro temas pri Esperanto kaj la defioj kiujn ĝi devas alfronti en diverskultura internacia parolkomunumo. Do vi povas legi la kontribuojn de la esploristoj en Esperanto, angla aŭ pola, elŝutante la librojn senpage rekte ĉe la retejo de la eldonejo RIS, kies ligilon ni dividos en nia podcasta paĝo.
Bonege.
Y a ti con gol de mí.
Et maintenant, nous allons vous proposer une petite introduction de la langue polonaise. Donc, elle a le statut de langue officielle en Pologne, où elle est parlée par environ 40 millions de personnes, mais elle est également parlée par les minorités polonaises dans les pays voisins, donc l'Allemagne, la Biélorussie, l'Ukraine, la Lituanie et la Tchéquie, par exemple, et évidemment par les émigrés polonais du monde entier. Donc, en tout, le polonais serait parlé par environ 55 millions de personnes. Le polonais a également le statut de langue officielle dans l'Union européenne et 9% de ses citoyens, donc de l'Union européenne, affirment pouvoir tenir une conversation en polonais en tant que langue maternelle ou en tant que langue secondaire. Donc, ce qui la passe au 6e rang des langues après l'anglais, l'allemand, le français, l'italien et l'espagnol. Le polonais est la deuxième langue slave la plus parlée dans le monde après le russe. Parce que oui, il faut préciser que le polonais donc est une langue indo-européenne qui appartient au groupe slave, et plus précisément celui des langues slaves occidentales, donc comme le tchèque et le slovaque. Et d'ailleurs, une intercompréhension est possible avec ces deux langues qui sont très proches. Nun ni rapide enkondukos la polan lingvon. Do gi estas la oficiala lingvo en Pollando, ki gi estas parolata de proximume 40 milionoj da homoj. Gi ankaŭ estas uzata kiel lingvo de nacia minoritato en najbaraj landoj kiel Germanio, Belorusio, Ukraino, Litovio aŭ Ĉeĥio, kaj tra la tuta mondo de la pola diasporo. Entute oni kalkulas, ke ĉirkaŭ 15 milionoj da homoj parolas la polan. La pola ankaŭ estas unu el la oficialaj lingvoj de la institucioj de la Eŭropa Unio kaj 9% de giai civitanoi diras che ili capablas havi conversazion en la pola, kiel gepatra lingvo au kiel dua lingvo. Gi estas la sesa lingvo post la angla, la germana, la franca, la itala kaj la hispana. Sed la pola estas la dua plej uzata slava lingvo en la tuta mondo post la rusa. La pola estas hindeuropa lingvo kaj pli precize okcidentslava lingvo, subgrupo de slava lingvaro. La ĉeĥa kaj la slovaka ankaŭ estas membroj de tiu okcidentslava grupo, do interkompreno kun tiuj lingvoj eblas. Maintenant, présentons quelques caractéristiques de la langue. Donc, le polonais utilise l'alphabet latin, mais qui est complété par quelques lettres accompagnées de signes qu'on appelle diacritiques, pour qu'ils correspondent mieux à la phonétique de la langue, tout simplement. Donc il y a l'ogonex ou le A et le E, l'accent aigu ou kreska sur le C, le N, le O, le S et le Z, la barre oblique sur le L, et le point subscrit ou le kropka sur le Z. Donc le Q, le V et le X ne sont pas utilisés en polonais, mais on peut les retrouver forcément dans les mots d'origine étrangère. Donc, au total, ça fait 32 lettres, 23 consonnes et 9 voyelles. Et chacune de ces lettres correspond à un son. Il y a quelques assemblages de deux lettres, donc des digrammes, qui peuvent également former un son. Donc, par exemple, le C et le H ensemble vont donner un H expiré, un peu comme en allemand ar, ou en espagnol hijo. Et le S et le Z ensemble vont donner le ch, qu'on entend en français dans fâché, par exemple. Et l'intonation du polonais est assez différente du français, mais ne sera pas trop étrangère aux espérantistes, puisque l'accent tonique tombe sur l'avant-dernière syllabe des mots, donc comme en espéranto. Il n'existe plus vraiment de dialecte en Pologne, on trouvera plutôt des accents ou des différences de prononciation et quelques mots locaux, mais sinon d'autres langues sont parlées dans certaines régions de la Pologne, comme le Kashub qui est parlé dans le nord, en Poméranie, et le Silésien qui est parlé dans le sud-ouest, en Silésie, mais elles sont considérées comme des langues slaves à part et différentes du polonais que l'on connaît et qui est standard donc. La pola baza sur la latina alfabeto, sed usas diacritain signoin, kiel la ogoneko sub la A kaj la E, la dextra corno super la C, la N, la O, la S kaj la Z, la obliqua streketo sur la L, kaj la superpunkto super la Z. Quo, vo kaj xo ne estas uzataj, sed oni povas uzi ilin en alilingvaj vortoj. Do entute estas 32 literoj, 23 konsonantoj kaj 9 vokaloj. La pola ortografio enhavas digrafojn, kiuj estas kunigo de du literoj por reprezenti unu nuran fonemon. Ekzemple, la C kaj la H kune sonos same kiel ah en la germana aŭ ih en la hispana. La S kaj la Z kune donos la Ŝ, kiu ni aŭdas en la franca en fâché. Do esperantistoj havas avantaĝon, kiam ili parolas la polan, ĉar kiel en Esperanto, la vorta akcento estas plej ofte sur la antaŭlasta silabo. ekde la dua mondmilito la pola lingvo pli kaj pli unuiĝis. Oni povas trovi diferencojn en prononco aŭ iujn lokajn vortojn, sed dialektoj ne plu ekzistas. Lingvoj estas uzataj en partoj de Pollando, kiel la kaŝuba lingvo, kiun oni parolas en la Pomeria provinco, kiu situas en la norda parto de la lando, kaj la silezia lingvo, kiun oni parolas en sudokcidenta parto de la lando, sed tiuj lingvoj estas konsiderataj kiel apartaj slavaj lingvoj.
Rencontre.
Rencontre. Rencontigio.
Rencontigio.
Nous sommes rejoints dans le studio par Zuzana Pajac, secrétaire générale au sein de l'association Maison Copernica, qui contribue au développement des échanges entre la France et la Pologne, et plus particulièrement entre l'Occitanie et la région de Kujawi-Poméranie. Donc, elle est également traductrice et interprète, et elle a lancé son podcast en janvier 2021, donc le podcast Constellation Copernica, qui raconte les histoires des expériences des Polonais et Polonaises en Occitanie. Donc bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, je vais très bien, merci pour votre invitation.
Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus votre parcours par rapport à la Pologne ou aux Polonais ?
Je suis polonaise, je suis née en Pologne. Je suis arrivée à Toulouse en 2001 et je suis venue ici pour continuer mon parcours d'études parce que j'ai fini ma maîtrise en Pologne, en langue française. Et je suis venue ici pour poursuivre mon doctorat. J'ai soutenu ma thèse en 2009 à l'université du Mirail. Mireille, à l'époque, maintenant Jean Jaurès, qui s'intitulait « La réalité virtuelle dans la science-fiction polonaise contemporaine ». Et ensuite, je suis rentrée dans la vie professionnelle en tant que traductrice, interprète, mais aussi en tant que consultante pour les entreprises. Parce que c'est vrai qu'assez rapidement, j'ai commencé à travailler avec des institutionnels, puisque c'était la période où la Pologne rentrait dans l'Union. Et on avait besoin des mains pour aider, surtout des têtes pour assurer cette entrée et les transferts de compétences diverses et variées au niveau institutionnel. Mais c'était aussi un moment où les entreprises polonaises et les Polonais rentraient sur le marché commun. Donc du coup, des personnes comme moi avec des deux langues et de la double culture étaient... avaient leur place à occuper, puisqu'on faisait justement le lien, on accompagnait aussi bien les entreprises françaises en Pologne que les entreprises polonaises en France.
Ok. Et est-ce que c'est à ce moment-là, quand vous êtes arrivée en France, que vous avez rejoint la Maison Copernica ?
Pas du tout. La Maison Copernica, c'est une création très récente. Nous avons créé cette association en 2016 avec quelques autres personnes. Entre autres le consul honoraire de l'époque, M. Jankowski, mais aussi M. Tettelbaum et le consul honoraire émérite M. Fourdrinier. Puisque justement à Toulouse, il y avait de nombreuses associations très dynamiques et très, très dynamiques et très présentes depuis longtemps qui s'occupaient du volet culturel. Ceci étant, il manquait une structure qui pourrait aussi assurer le volet institutionnel et peut-être aussi économique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'était dit, il faudrait aussi pouvoir créer des événements, pas seulement des concerts, des spectacles ou des conférences, mais aussi, par exemple, des missions économiques ou des visites des hommes politiques pour ouvrir aussi Toulouse et lui donner aussi cette visibilité-là, comme étant quand même un pôle industriel et scientifique très important. Donc du coup, Maison Copernica a justement cette vocation-là pour remplir un peu ce besoin qui nous a paru important à ce moment-là.
Ok. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour réaliser ces objectifs ?
Justement, nous avons reçu en 2017 une délégation de parlementaires polonais qui sont venus nous rendre visite ici à Toulouse, à qui on a consacré une journée et demie presque, parce qu'ils étaient reçus aussi bien par la mairie que des députés de la région, aussi par Airbus. Il faut dire que quand on vient à Toulouse, on passe... automatiquement par case Airbus si on le veuille ou non. Mais après, voilà, c'est un peu le passage obligé. Et ensuite, j'ai entamé quelques initiatives justement avec l'agence de développement en Pologne pour organiser des missions économiques ici à Toulouse. Et justement, la pandémie nous a un peu obligé de remettre ça plus tard parce qu'on devait le faire en 2019, ça n'a pas pu se faire pour des raisons financières d'organisation. Donc on devait refaire en 2020. On sait que ça n'a pas été possible pour des raisons, voilà, disons, stopper le monde entier. Donc du coup, je pense y revenir rapidement. Peut-être pas encore cette année, parce que c'est trop court, mais je commence à y retravailler, effectivement, pour que les années suivantes, ça puisse se réaliser. Au-delà de ça, Maison Copernica aussi est à l'initiative avec la mairie de Toulouse de l'organisation d'une soirée tous les ans à la salle des illustres aux alentours de 11 novembre, qui est notre fête nationale, où la mairie nous reçoit justement la communauté pour qu'on puisse fêter cet événement et nous rencontrer et inviter aussi des politiciens, des figures importantes de la vie politique et économique polonaise, pour que aussi donner de la visibilité à cette communauté polonaise de l'Occitanie et particulièrement de Toulouse. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Justement, cette année, nous avons prévu quelque chose complètement différent. Nous allons danser la polonaise le 4 juillet sur la place du Capitole. Parce que je me suis dit que, en fait, cette convivialité manque, qu'on est tous un peu morose depuis une année. Oui, et il nous faudrait quelque chose de gai, joyeux, qui nous permet aussi de nous réunir. Donc je proposais cette initiative. On devait le faire le 2 mai, mais finalement la date qui est arrêtée définitivement, c'est le 4 juillet. Donc la polonaise, c'est une danse traditionnelle polonaise qui se marche, entre guillemets. Vous pouvez regarder d'ailleurs la chorégraphie prévue sur le Facebook de Maison Copernica si vous avez envie. Okay, okay. Cet événement est ouvert. Donc il n'est pas du tout réservé qu'à la communauté polonaise. Toute personne qui a envie se joindre à nous est bienvenue. Donc merci juste de vous signaler avant pour qu'on puisse savoir combien on est. Et aussi, si vous avez envie de participer à la répétition qui aura lieu au mois de juin, voilà, donc il vaut mieux s'inscrire, ceci étant le jour J, si vous venez et vous êtes là, vous serez accueillis également et pourrez danser la polonaise avec les Polonais de Toulouse sur la place du Capitole.
D'accord, il n'y a pas besoin de connaître la danse. Enfin, vous dites qu'il y a
il vaut mieux, ceci étant, on a prévu aussi qu'il y aura des gens qui viendront à l'improviste, donc du coup, forcément, il y aura des maîtres de danse qui vont guider. C'est une danse qui est relativement simple. Une fois qu'on a compris le pas de base, il faut juste suivre le mouvement et garder le rythme.
Voilà, c'est difficile.
D'accord, bon, bah, très bien. Donc le rendez-vous est pris le 4 juillet, place du Capitole. Et pourquoi cette région de la Pologne en particulier?
Puisque cette région, justement parce qu'il y a une histoire entre l'Occitanie et Kujawie-Pomeranie. Puisque c'est justement dans les années 90 que les premières relations entre les deux régions, c'est-à-dire Midi-Pyrénées de l'époque et Kujawie-Pomeranie, qui est au demeurant ma région natale, se sont initiées au niveau justement d'échanges surtout universitaires. Parce qu'il faut savoir que des échanges au niveau, par exemple, de la médecine, télémédecine. Il y a eu des programmes qui étaient faits ensemble entre les chercheurs toulousains et justement des hôpitaux en Pologne. Et ensuite, sur cette base-là, il s'est engagé aussi un échange bilatéral. Et par exemple, la Midi-Pyrénées a accueilli dans leur bureau à Bruxelles les représentants de la région Kujawie-Pomeranie à l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne. Et c'est aussi Midi-Pyrénées qui a formé les fonctionnaires régionaux de Kujawie-Pomeranie aux fonds structuraux et d'autres types, comment dire, des diverses procédures et procédés européens. Donc du coup, il y a ce lien qui était institutionnellement depuis un certain temps. Et on a voulu un peu poursuivre dans cette voie-là. C'est vrai que pour l'instant, les priorités, aussi bien d'un côté que de l'autre, ont un peu changé et se sont tournées peut-être vers d'autres partenaires. Ceci étant, ça permet aussi de travailler à niveau régional et espérer que peut-être un jour, ça va prendre plus d'envergure. Ceci étant, on ne se limite pas du tout. C'est-à-dire, c'est vrai qu'au niveau français, on se limite à l'Occitanie parce que c'est ce qui nous est le plus proche. Mais au niveau polonais, un réseau relationnel qui s'est créé aussi au niveau national.
D'accord. Est-ce que la communauté polonaise en Occitanie, elle est importante?
On ne le sait pas.
Okay,
puisque depuis que les frontières sont ouvertes et on ne fait plus le comptage à l'entrée, on n'en sait rien du tout. Ceci étant, on pense qu'on est quand même quelques milliers, pour différentes raisons. C'est-à-dire, cette communauté, elle a eu plusieurs vagues, et elle est très hétérogène. Il y a des Polonais qui sont venus pendant le communisme encore. Il y a une partie quand même de cette communauté. Ce sont des gens qui sont venus, je ne sais pas, après la guerre, à différentes périodes. Et ensuite, si on prend des choses plus contemporaines, effectivement, il y a cette vague qui est liée au changement de régime en Pologne, c'est-à-dire les années 90. Ensuite, beaucoup de personnes comme moi qui sont arrivées dans les années 2000 au début pour des raisons professionnelles, parfois universitaires encore, et surtout la grande vague après 2004. Et ça, on a des échanges Erasmus, certains restent, d'autres repartent. Il y a l'ouverture du marché de travail qui a aussi fait venir énormément de Polonais à travailler ici. On a aussi bien des ouvriers en bâtiment que des ingénieurs chez Airbus ou aérospatial ou autre. Donc vous voyez, c'est vraiment très très hétérogène. On est de plus en plus nombreux. Et il est vrai aussi que cette communauté n'a pas forcément, comment dire, le réflexe de se réunir. Donc il y a peut-être des Polonais qui sont là qui ne cherchent pas forcément de contact avec d'autres Polonais. Moi, j'essaie de les attirer. C'est vrai aussi que n'ayons pas une vocation entre bien traditionnelle ou historique, on ne fait pas de danse folklorique et qui n'intéresse peut-être pas tout le monde, on a peut-être plus de chances d'attirer ou de faire venir les gens qui sont arrivés récemment ou qui viennent ponctuellement à des événements polonais. Mais on ne connaît pas le nombre exact. Il y a pas mal de gens quand même d'origine polonaise dans la région, ça il faut le savoir, parce qu'on a eu des mines Carmont et autres. On a eu même des résistants polonais dans le Tarn. Donc, si vous voulez, il y a une histoire de la communauté polonaise dans la région. Des gens qui ont eu des grands-parents, des arrière-grands-parents et qui se savent d'origine polonaise, ça, effectivement. Et après, là, cette communauté de polonaise d'aujourd'hui.
Ok,
d'accord. Et en parlant de cette communauté polonaise donc en Occitanie, vous avez lancé un podcast. Et qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce podcast ?
J'étais inspirée par ma participation à une émission de télé sur France 3. Parler justement de la communauté polonaise et aussi des événements de l'époque qui étaient surtout la grève des femmes et des grandes manifestations liées à l'interdiction de l'IVG en Pologne. Pour la énième fois, je me suis dit la même chose, c'est-à-dire cette communauté est quand même très dispersée dans le sens où les associations, elles œuvrent chacune sur son focus, mais c'est vrai aussi qu'il manque peut-être quelque chose qui ferait le lien, ou j'en sais rien, un aspect autre. Et je me suis dit, j'ai envie justement de donner la parole aux Polonais, normands entre guillemets, parce que des artistes, parce que des universitaires, parce que j'en sais rien, des consuls ou des chefs d'entreprise, ceux qui ont voilà, des success stories, bon, disons que c'est intéressant, mais à un moment donné, ça aussi, ça limite. Mais je me suis dit aussi, pour que tout le monde puisse s'identifier à cette communauté et pour donner un peu d'envergure ou de sens peut-être à ce lien, j'ai décidé d'interviewer des Polonais lambda qui ont envie de raconter leurs histoires. Ceci étant, je n'évite bien entendu pas les grandes personnalités, parce qu'il faut aussi les écouter, mais j'essaie de mélanger les deux. Des activistes féministes, des réalisatrices de théâtre, des ouvriers justement, des plombiers, des consuls et des organisateurs de voyages. Si vous voulez, je me suis dit, justement, ce titre « Constellation », il illustre bien mon idée. Chaque étoile fait la constellation, donc nous faisons tous partie de cette image, de ce paysage. Ça fonctionne, ça a plutôt des bons retours, donc pour l'instant je continue.
Ça a l'air génial comme podcast. Ouais.
Et où est-ce qu'on peut l'écouter ?
Vous pouvez l'écouter sur Spotify, ça s'appelle Constellation Copernica avec K, c'est-à-dire les constellations par K et Copernica par 2K. Voilà,
d'accord.
Voilà, sur Spotify, sur Google Podcast, peut-être sur Deezer, mais je ne me souviens plus s'il était référencé.
On retrouvera. Vous les faites en français ou en polonais ?
Les deux. Certaines personnes préfèrent communiquer en polonais parce que ça l'air plus facile, et d'autres en français. Je me suis dit aussi que c'est important pour les Polonais qui ne maîtrisent peut-être pas complètement la langue française, et il y en a, de leur donner aussi la chance d'exprimer.
Ok. Alors justement, en parlant de langue et d'apprentissage des langues, est-ce que de votre expérience, apprendre le français, c'est difficile? Est-ce que pour un français, apprendre le polonais, à votre avis, c'est difficile? Et qu'est-ce qu'il y a comme points un peu linguistiques qui peut-être vous ont posé problème en français ou qui peuvent poser problème au français pour apprendre le polonais?
En sachant que les deux langues sont quand même des langues indo-européennes, on a quand même, on est dans le même groupe, dans la même logique, la même structure, donc... Après, tout dépend de la méthode et peut-être d'envie ou de disposition de tout un chacun. Mais après, je pars du principe qu'avec un bon prof, si on a envie ou bonne méthode, et on peut apprendre n'importe quelle langue. Après, principale différence, c'est que la langue française, elle est composée particulièrement des voyelles. Mmh. Et la langue polonaise, c'est les consonnes. Donc, ce qui est compliqué, c'est la mise à l'épreuve de l'appareil vocal qui, d'un coup, il faut qu'il change de la gymnastique. Mmh. Donc, au début, je vous avoue que ça peut paraître compliqué, mais l'oreille s'y fait. Et à partir du moment où l'oreille s'y fait, les cordes vocales également, et la langue, et tout le reste aussi. Donc finalement, c'est plus... Peut-être on n'a pas l'habitude en français d'avoir des consonnes, des mots où il n'y a que des consonnes. Donc ça peut paraître effrayant et imprononçable. Ceci étant, je vous avoue qu'en la première fois de ma vie, j'ai vu écrire beaucoup sur un tableau. Je me suis dit, j'y arriverai jamais.
Je comprends, pour le coup, il y a beaucoup.
Mais une fois qu'on a compris la méthode, et après, on y va. Aussi, le polonais, il y a une mécanique qui s'appelle la déclinaison. Mm-hmm. C'est-à-dire que les noms, les substantifs, se déclinent comme en latin ou en allemand, plus comme en latin, parce qu'il y en a quand même 7 cas. Et c'est justement cette déclinaison-là qui définit leur fonction dans la phrase. Contrairement au français, vous avez la syntaxe qui définit le sens. Donc, ce qui complique, j'en sais rien, mais ça ajoute quand même à l'apprentissage cette composante-là. Mais ce n'est pas insurmontable non plus. Il y a quand même 40 millions de Polonais qui parlent le polonais. Donc, je pense que
c'est faisable.
De toute façon, chaque langue a sa spécificité et sa technicité. Ça, c'est la nôtre.
Est-ce que, par exemple, vous pourriez nous apprendre quelques petites phrases, des expressions de base? Par exemple, comment je dirais bonjour?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Comment je dirais j'habite à Toulouse?
Mieszkam w Toulouse.
Mieszkam w Toulouse.
Et très important, je parle l'espéranto.
Mówię w Esperanto.
Mówię w Esperanto.
Très bien. Ben voilà, maintenant avec ça.
On peut aller en Pologne, c'est bon. Tout est bon.
Tout est bon. Est-ce que vous auriez une phrase, un mot final que je voudrais partager?
Je peux vous souhaiter qu'un bon séjour en Pologne, parce que j'ai bien compris que vous partiez. Donc, je vous souhaite que cette expérience soit enrichissante et qu'elle vous plaise. Et merci encore une fois pour votre invitation.
Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. Donc voilà, c'était Zuzanna de l'association La Maison Copernica. Merci, au revoir.
Dziękuję.
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 Małe psy dopadały mnie po drodze. Każdy z nich chciał dla siebie urwać kerf, choć czasami miałem tego dosyć. Trzeba było się tą drogą wlec. Masz do skrzydeł przywiązaną złotą rybę. Jeśli ty odfruniesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj, ptaku, w klatce nie jeździ najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chce się już żyć. Gdy pukałem, zamykano wszystkie bramy. Gdy waliłem, ryglowałem.
otwaną wszystkie drzwi i mówili, nie powinien między nami, nie powinien między nami taki człowiek żyć. Masz do skrzydeł przywiązaną złotą rybę. Jeśli ty odpruniesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj, ptaku, w klatce nie jest ci najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chce się już żyć. Wiele razy dopadałem bramy piekieł i niebieskie mnie kusiły często drzwi. W głowie pustka, wszystko dawno się skończyło. Puste miejsca, pozostały tylko sny. Masz do skrzydeł przywiązaną złotą rybę. Jeśli ty odpruniesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj, ptak, w klatce nie jest ci najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chce się już żyć.
Saluton Sabi.
Saluton.
Dankon ke vi akceptis respondi al niaj demandoj pri la pola lingvo. Do vi estas hungara, sed vi loĝas en Varsovio, do la ĉefurbo de Pollando.
Dankon pro la propono kaj ke vi pensis pri mi rilate al tiu temo. Jes, vi pravas. Mi estas hungaro kaj mi loĝas en Varsovio, en Pollando.
Do vi estas tradukisto? Kaj krom Esperanto vi ankaŭ instruas la hungaran kaj la polan, sed vi ankaŭ parolas la anglan, la finnan kaj la slovakan, mi legis?
Jes, la slovaka nur iomete, sed la reston sufiĉe bone.
Wow. Ĉu vi volas paroli pri kiel vi rilatas al lingvoj ĝenerale? Kiel tiuj lingvoj?
Kiam mi estis en la bazlernejo kaj poste komence en la gimnazio, mi ne speciale bone lernis lingvojn kaj miaj notoj ne estis la plej bonaj pri la angla kaj poste la germana. Do mi ne rimarkis, ĉu mi havas iun talenton aŭ mi ne pensis, ke mi okupiĝos pri lingvoj en la estonteco. Kaj en la gimnazio mi lernis poste Esperanton. Kaj per la lernado de Esperanto mi ekkomprenis la funkciadon de lingvoj ĝenerale, kiel funkcias lingvoj. Kaj mi tuj komprenis, kiel funkcias la hungara, mi komprenis, kiel funkcias la angla kaj kiel la germana. Do miaj notoj post lerni Esperanton, miaj notoj pri tiuj lingvoj kaj eĉ pri la gepatra lingvo estis pli bonaj. Kaj mi vidis, ke por mi iras ĉio pli facila ol por miaj samklasanoj. Do mi tiam ekpensis, ke eble mi okupiĝos pri lingvoj.
Sed kial vi volis do lerni la polan?
Kiam mi estis en mia unua universitato en Hungario, tiam estis eblo iri eksterlanden al pola universitato per la programo Erasmus. Do mi decidis iri, kaj tio estis en Varsovio. Do mi pensis, se mi jam venis por Erasmus, mi almenaŭ komencos lerni la lingvon. Poste mi ekŝatis la urbon, kaj mi decidis, ke mi restos.
Do kiu estis la plej facila aŭ la plej malfacila kiam vi komencis lerni?
Tio ke pere de Esperanto mi ekkomprenis kiel funkcias lingvoj kaj mi jam sufiĉe bone kapablis la anglan kaj la germanan kaj pro tio ke la pola estas hind-eŭropa lingvo, do iomete simila al tiuj lingvoj kompare kun ekzemple mia gepatra lingvo. Do mi komencis tiel ke mi certe komprenos, mi certe scios, mi nur devas lerni. Sed diri iujn konkretajn ekzemplojn facile estis ekzemple malgraŭ tio ke en la pola estas ekzemple tri genroj de vortoj, ekzemple tablo havas alian ol libro, sed estis facile ĉar la polaj finaĵoj montras tion. La polaj finaĵoj ankaŭ montras ĉu la vorto estas substantivo, ĉu estas adjektivo, ĉu estas verbo. Tio similas ankaŭ al Esperanto, ke oni povas vidi tion. Plej malfacile estis por mi, ke en la pola estas sep kazoj, kaj ĉiuj kazoj en ĉiuj genroj en pluralo kaj singularo havas diversajn finaĵojn. Do sume estas ial, mi ne scias, kvardek, kvindek finaĵoj, kaj kelkfoje oni sentas de tio dependas de tio, ĉu estas bela vetero, ĉu mi loĝas kun iu, do estas tre komplika sistemo de kazoj kaj estas tre malfacila lerni bone tiujn finaĵojn.
Do vi diris, ke vi unue lernis Esperanton, ĉar vi jam konis Esperanton antaŭe, sed ĉu koni Esperanton helpis vin?
Yes. Pro tio, kion mi menciis, ke mi generale komprenis la funkciadon de la lingvoj. Do ekzemple, kiam en la pola oni diris, ke la finaĵo ont estas participo por ĉiuj tensoj, mi jam sciis pri kio temas. Ĉar pro Esperanto mi sciis, ke estas participo, mi sciis, ke estas tenso. Do mi simple tragis unu frazon, kaj mi jam tute povis uzi tiujn participojn.
Ĉar mi ofte aŭdas, ke ĉar Zamenhof estis pola, Esperanto estas kiel la pola.
Do fakte mi pensas, ke Esperanto tre similas al hind-eŭropaj lingvoj ĝenerale, al la sistemo de la latina, de la pola, de la franca. Se oni devus ekzemple tiu lingvanoj hind-eŭropanoj devus lerni la hungaran, la finnan aŭ certe iun alian lingvon, ili komprenus, ke tamen Esperanto estas tre simila al ĉiuj tiuj.
Tamen vi skribis libron en Esperanto, do kiu instigis vin verki en Esperanto kaj ne en la pola aŭ ne en la hungara?
Do kiam mi estis en la gimnazio kaj mi lernis Esperanton, mi volis havi lingvan ekzamenon, ĉar tiam oni havas avantaĝojn en Hungario. Do en mia regiono tute ne estis Esperanto-parolantoj nek instruisto. Do mi decidis, ke mi volas iri al la ekzameno, sed mi devas pretiĝi iel ankaŭ pri parolado. Do mi vidis en la interreto, ke estas 15 temoj, pri kiuj oni devas pretiĝi. Do kiam mi estis en la gimnazio, mi ellaboris tiujn 15 temojn por mi, por ke mi sciu, kion mi diru. Nun, post, mi ne scias, 10-12 jaroj, mi havis tempon pro la pandemio kaj emon, kaj estis ideo, do mi simple prenis tiujn malnovajn tekstojn, kiujn mi jam skribis en gimnazio, kaj renovigis, aldonis ion. Do mi simple pensis, se ili jam estas pretaj kaj mi havas ilin, estas bone eldoni.
Estas bela, bela rakonto.
Mi pensas, ke estas tre interesa la rilatoj inter Hungario kaj Esperanto. Kial multa da homoj en Hungario lernas Esperanto?
Fakte, en la gimnazio mi komencis lerni Esperanton, kio estis la komenca celo pro tio, por ke mi havu lingvan ekzamenon. preskaŭ ĉiuj hungaroj scias, ke havi lingvan ekzamenon estas granda avantaĝo por hungaroj en Hungario. Do oni pli facile iras al la universitato, oni pli facile ricevas diplomon kaj havas pli altan salajron en ŝtataj lokoj. Pro tio tre multaj hungaroj ankaŭ scias, ke Esperanto estas la plej facila lingvo de la mondo. Kaj multaj hungaroj faras la ekzamenon pro tio. Kompreneble ekde tiu tempo mi vidis, ke Esperanto funkcias, ke ĝi havas belan ideon, ke oni povas amikiĝi, kaj miaj celoj kaj prioritatoj ŝanĝiĝis, sed tio estis la iama kialo.
Vi vidis ne la sama rilatoj, sed simila rilatoj inter la pola Pollando kaj Esperanto.
Do mi pensas, ke la situacio de Esperanto en Pollando estas iomete simila kiel en aliaj landoj, kiel ekzemple en Hispanio kaj Francio. Eble aldona afero estas ĉi tie, ke Esperanto estas ankaŭ parto de la pola kulturo, ĉar Zamenhof estis parte pola kaj li parolis la polan kaj li naskiĝis kaj mortis en la hodiaŭa teritorio de Pollando. Do mi pensas, ke pro tio iomete pli multe da homoj scias pri Esperanto aŭ iomete pli da homoj okupiĝas pri Esperanto pro ĉi tio. Sed mi pensas, ke tio ne estas tiom forta afero kiel tiu lingvo ekzamena sistemo en Hungario.
Jes, kompreneble.
Mi nur volis peti se vi havas konsilojn por la homoj kiu komencas aŭ kiu volas komenci paroli la polan.
Mi estas tiu tipo de persono kiu ne certas pri gramatikaĵoj, ne komencas paroli. Do estante en Pollando, mi lernis dum 2 jaroj, sed mi tute nenion parolis. Do mi komencis paroli post 2-3 jaroj, kiam mi certis, ke miaj frazoj estos en ordo. Do estas por mi malfacile konsili. Do sed se iu lernas kaj volas ekparoli, do verŝajne plej facile estas trovi instruiston, kun kiu oni povas paroli en sia regiono, aŭ ekzemple interrete. Aŭ estas la retpaĝo iTalki, kie oni povas havi retajn lecionojn kaj ankaŭ konversaciajn lecionojn. Kaj eble mi proponus, ke malgraŭ mia sinteno, oni klopodu paroli jam ekde la komenco. Aŭ ankaŭ trovi tian instruiston, kiu devigas la lernanton paroli de la komenco.
Jes, mi komprenas. Do dankon por la ideojn.
Mi esperas, ke la homoj nun volas lerni la polan.
Se oni volas lerni iun lingvon, oni povas trovi min en iTalki.
Yes. Ni kondividas la ligilon de vian profilon en nia podcasta paĝo de iTalki. Ĉu vi konsentas?
Prefere kundividu la ligilon por mia retpaĝo. Ĉar fakte por iTalki mi blokis mian profilon por iom da tempo, ĉar mi havas tro da lernantoj. Sed mi povas aldoni la ligilon al mia retpaĝo.
Bone, kaj jes, sur via retpaĝo ni povas trovi vian libron.
Yes.
Kaj la aliajn informojn.
Yes.
Bone, do koran dankon.
Dankon.
Ni revidos vin, fakte baldaŭ en Tuluzo ankaŭ.
Yes. Do dankon pro la invito kaj kaj jes, mi tre atendas la renkontiĝon en Tuluzo.
Jes. Dankon.
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 Ĝis.
Si povus, se si volus, si apute. Se la vero, es
pensas que li ne comprenas ŝi iliaj tagoj antaŭaj tagoj ili memoras li nun ŝi atentas lin ŝi atendas ripari ĉion volas ŝi sed mi pensas ke evidentas che volas vige al paesaggio con sussur la maro se te evas lerni della bonaggio e che placio e se fari eraro e nuva peras nutio dependas de gusto e anca o quel che shatas malfarmo e ti molestas bonegue necciu saggiaggio la monna tui claxiges la tago e passas mal rapide se li permessas che tio se Baldo fandillo sí La uru y arun La tem contra o la largo Y que un implorece Line el tenas Si ne comprenas la chance De estis li
La sukceso de nia unua Esperanto retateliero ni denove organizos unu la 2 de junio je la deknaŭa. Ne hezitu paroli pri ĝin al via interesataj amikoj. Après le succès de notre premier atelier découverte en ligne, nous en organisons un deuxième le 2 juin à partir de 19h. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et à inviter vos proches intéressés par le sujet. Vous pourrez évidemment retrouver l'événement sur notre site.
Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oxeo.net. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui, avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter ou télécharger l'émission.
Dankon pro via auskultado en nia retejo vi trovos informojn pri la kantoj, ligiloj kaj povos reaŭskulti aŭ elŝuti la elsendon ĝis la venonta semajno je la oka por la nova programo.
On se retrouve la semaine prochaine sur Canal Sud de 20h à 21h pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bon an vesperon. Gis.
Gis.
riĉa per laboro, de stultaĵo kaj absurdo li estiĝis nebene trebla. Do li hodiaŭ ne alatendos de sia feliĉa matena koito. Ne, 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 ni restos sur la arbo, ni parolas pri Dio kaj kantas pri ĉielo. Ne, 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 ni restos sur la arbo, ni parolas pri Dio kaj kantas pri ĉielo.
Chill out.